Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mukashimukashi.audio. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 des Petites Mains. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers très particulier et confidentiel du métier de façonnier cuir ou plus simplement le fabricant de vêtements en cuir. Et c'est auprès de Monsieur Alain Smet, qui est à la tête de son propre atelier de confection, que nous allons découvrir les différentes étapes, les différents savoir-faire nécessaires à la réalisation d'un vêtement en cuir. Il est vrai que l'habit en cuir est jusqu'à aujourd'hui un indémodable dans la culture populaire. Perfectionné depuis la nuit des temps, son exécution n'est pourtant pas chose aisée. La fabrication d'un vêtement en peau de bête de qualité nécessite tout le savoir-faire d'un professionnel et les outils appropriés. Monsieur Alain, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie de nous accueillir.
Bienvenue.
Comme d'habitude, nous avons toujours la chance d'être accueillis par les artisans et c'est toujours un vrai bonheur d'être là parmi vous. Donc, nous allons parler aujourd'hui effectivement de la fabrication des vêtements en cuir, qui est un métier particulier. Et est-ce qu'il y a déjà une différence entre la fabrication d'un vêtement en tissu, chaîne et trame, et la fabrication d'un vêtement en cuir?
Alors, il y a deux différences essentielles. D'abord, ce sont les machines à coudre qui ne sont pas les mêmes. Pour piquer le cuir, vous imaginez bien qu'il faut des machines plus puissantes que les machines qui vous servent habituellement à piquer du tissu. Donc, d'accord, on a des machines à triple entraînement qui nous servent à piquer le cuir. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est quand vous trompez dans un vêtement en tissu, vous pouvez dépiquer et repiquer à côté. Oui. Quand vous trompez dans un vêtement en cuir, vous ne pouvez plus faire ça.
Le trou reste.
La pièce est morte. Donc, il faut recommencer tout le travail qui a été fait au préalable.
Ah oui, donc ça c'est très embêtant parce que du coup en fait, en gros, vous n'avez pas le droit à l'erreur.
On n'a pas droit à l'erreur.
Ou alors ça coûte cher.
On n'a pas droit à l'erreur ou alors ça coûte très cher parce que ça coûte des peaux qui aujourd'hui, nous on utilise, on a des clients de très haute gamme puisque ce sont les seuls qui fabriquent encore en France, donc on a des clients de très haute gamme qui n'acceptent pas aucun défaut et donc on ne peut pas se permettre de leur livrer des pièces qui ne soient pas parfaites.
Oui, je
comprends.
Donc
effectivement, toute erreur coûte cher parce que les peaux aujourd'hui coûtent cher et quand on doit jeter des parties de vêtements ou un vêtement en entier, ça coûte très cher.
Ben oui, forcément. Et du coup, si on commence à parler un petit peu, on va dire la première étape dans la création d'un habit en cuir, c'est bien entendu du coup le choix du cuir, c'est-à-dire le choix de l'aspect du cuir, la sélection des peaux dans laquelle il va être confectionné. Est-ce que c'est vous qui faites ça déjà?
Alors, en général, je ne le fais pas tout seul. Je participe avec mes clients principaux, je participe au choix des matières. C'est-à-dire que les stylistes ont une idée précise en général de ce qu'ils veulent pour chaque collection.
Oui.
Et en fonction de ce qu'ils veulent, je leur fais des propositions où ils trouvent eux-mêmes ce qu'ils veulent. À partir de ce moment-là, où on est d'accord sur la qualité du cuir qu'on va utiliser, moi, mon premier travail, effectivement, pour faire des vêtements de qualité, c'est un choix de cuir de qualité et de très bons coupeurs. Parce que les très bons coupeurs ne laissent passer aucun défaut dans une peau et c'est ce qui fait la différence entre un vêtement de cuir de qualité et un vêtement de cuir qui peut être de moins bonne qualité.
Exactement. Donc en fait, nous sommes bien d'accord que la personne qui est en charge de cet aspect de la création, on peut dire, c'est du coup le coupeur à la base. C'est lui qui choisit les peaux.
C'est pas lui qui choisit les peaux, le coupeur. Il reçoit les peaux qui sont approvisionnées en fonction des critères qui nous sont donnés par les acheteurs, par les styliste.
Oui.
Le styliste détermine un type de peau et nous les achetons en accord avec le client dans certaines tanneries. Après, le travail du coupeur commence à partir du moment où on reçoit les peaux et c'est là, puisque contrairement au tissu aussi, le tissu on coupe des matelas avec des couteaux automatiques.
Oui.
En ce qui concerne le cuir, comme toutes les peaux n'ont pas la même forme et peuvent avoir des défauts qui ne sont pas toujours placés au même endroit, la peau est coupée pièce par pièce. Oui. Pour chaque morceau du vêtement qu'on va couper, on place un morceau de carton sur la peau en évitant les petits défauts qu'il peut y avoir dans la peau. Et on coupe tout ça à la main, pièce par pièce. Donc le travail de coupe est déjà beaucoup plus long que celui que dans le tissu. Et c'est dans cette première partie de coupe qu'on fait déjà une grande partie de la différence entre la qualité et le commun du cuir.
Exactement. Donc quand vous parlez de carton pour les auditeurs, en fait, c'est le patronage.
Le patronage qui, pour nous, doit être en carton rigide et non pas en papier comme il l'est pour le tissu.
Voilà, donc ça, c'est aussi un indice supplémentaire pour nos auditeurs qui ont déjà écouté l'épisode sur, en fait, le patronnier, le métier de patronnier. Donc là, sachez que l'on retrouve donc forcément de nouveau ce métier qui intervient donc dans la confection de vêtements en cuir. C'est juste, on va dire, le matériel qui change et donc la qualité de carton, là, en l'occurrence, qui change, car le carton doit être épais.
Voilà.
Est-ce que c'est vrai que le patron est choisi selon le modèle et la taille de la tenue? C'est-à-dire qu'on, comme vous le disiez, effectivement, les peaux ne sont toutes différentes avec des tailles différentes. Et encore plus si c'est de l'agneau, de la vache, de la vachette, etc. Donc du coup, on ne peut pas faire tous les vêtements dans toutes les peaux. Ou alors, ça veut dire qu'il y a plus de couture.
Alors effectivement, on utilise des peaux de différentes tailles, selon les qualités. Ce sont des agneaux, des veaux, encore que nous, dans le vêtement féminin, puisque je fais essentiellement du vêtement féminin, ce sont en général des petites peaux. Ce sont des peaux dans lesquelles les vêtements doivent être découpés. Et donc, ça c'est nous, les professionnels du cuir, qui en général faisons des propositions à nos clients stylistes pour leur dire, voilà, en fonction de la taille des peaux, on doit faire des découpes. Donc nous, on vous propose de les faire à cet endroit plutôt qu'à tel autre. Et en général, c'est validé par les stylistes puisque on est des professionnels de la fabrication de vêtements de cuir. Et en général, on sait ce qu'on fait.
On vous fait confiance.
Voilà.
Normal. Donc pour un peu expliquer d'une manière un peu différente aux auditeurs. Imaginez-vous, par exemple, vous avez une veste, vous avez le dos de votre veste. En général, sur une veste, vous avez une couture milieu dos. Donc, ça, effectivement, la hauteur d'un corps de veste est quand même assez grand. Donc, si la peau ne le permet pas, on va vous faire une couture au niveau de la taille, par exemple.
Exactement. C'est surtout vrai pour tout ce qui est pantalon, où effectivement, on a pas de peau assez longue pour faire une jambe de pantalon. C'est surtout vrai pour les manteaux. Il nous arrive assez souvent de faire des trench coats ou des manteaux en cuir. Et forcément, même si on utilise à la base un patronage qui est fait pour du tissu, notre métier, c'est de l'adapter à la longueur des peaux. Donc, on fait les découpes dont je vous parlais tout à l'heure, qui doivent être validées en général par les stylistes, mais que nous proposons.
Parce que du coup, si on parle des tailles, un vêtement en taille 36, si vous avez la même veste en taille 46, donc vous allez avoir besoin de plus de peau. Donc du coup, vous allez avoir plus de couture. Comment ça se passe?
Non, alors c'est vrai qu'en général, on travaille sur des tailles 34, 36, 38, 40 avec les mêmes peaux. Dès qu'on dépasse les tailles 42, 44, 46, ça devient compliqué de faire les mêmes vêtements avec les mêmes découpes. Et surtout que voilà, nous utilisons beaucoup de peaux qui sont assez petites, des petits agneaux, des tout petits veaux. Et effectivement, en général, quand on monte dans les tailles, on doit faire des découpes. Donc, on a deux types de clients. Ceux qui disent, OK, vous allez jusqu'au 42, 44 sans la découpe et au-dessus, vous faites une découpe. Et il y a d'autres clients qui nous disent, non, moi, je veux le même vêtement pour toutes les tailles. Donc, si on doit faire une découpe pour les grandes tailles, on commence à la faire aussi pour les petites.
Voilà, d'accord. Voilà. Si on parle du cuir maintenant, quand il arrive, donc les peaux arrivent, voilà, elles sont déjà bien sûr tannées, teintes, dans la bonne couleur. Quelle est la différence? Tout à l'heure, vous avez dit donc, par rapport aux défauts de peau, mais quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une différence de toucher pour une peau de qualité, une vraie peau de luxe et un cuir normal que l'on peut trouver dans les magasins bas de gamme?
Alors, il y a une différence dans la mesure où il y a des finitions qui peuvent couvrir les défauts. Donc, soit nous, en général, on n'utilise que des peaux qui sont très peu retraitées. Donc, elles sont tannées, colorées, finitions, mais c'est ce qu'on appelle des agneaux plongés. Les agneaux plongés, on ne passe pas un spray dessus pour couvrir les défauts qu'il peut y avoir dans les peaux. À partir du moment où on fait un spray par-dessus, ça s'appelle plus un plongé, ça s'appelle un nappa. Et un nappa permet de couvrir les défauts. Par contre, du coup, il n'aura plus le même toucher. Il aura un toucher, j'allais dire plastique, n'allons pas jusque-là, mais qui se rapprochera quand même de quelque chose de un peu plus synthétique déjà, un peu plus... ça reste du cuir, c'est de la reste de la matière animale, mais c'est un peu plastifié quand même, qu'on le veuille ou non.
Oui, l'agneau plongé dont nous parlons, en fait, a un toucher particulièrement doux et il est très souple aussi.
Exactement.
Est-ce qu'il existe différentes épaisseurs de cuir sur le même animal, par exemple, en termes, si on parle d'une peau d'agneau, est-ce qu'il existe différentes épaisseurs de cuir d'agneau ?
Alors oui, il existe différentes épaisseurs. Disons que selon la taille de l'agneau, si on va prendre un agneau qui est très jeune, qui a un an ou quelque chose comme ça, qui est très jeune, il va avoir une peau fine.
Oui.
Et s'il est plus âgé, si on a besoin pour les besoins de notre vêtement, etc., d'avoir des peaux un peu plus grandes, on va prendre des agneaux un peu plus âgés qui vont être plus grands, mais dont la peau va être plus épaisse. Après, il y a des techniques en tannerie qui permettent d'affiner les peaux. Donc, on peut toujours prendre des peaux qui font... En général, nous, dans le vêtement féminin, on utilise des peaux qui font 0,6, 0,7 oui. mm d'épaisseur. Et donc, ce sont des peaux qui sont systématiquement affinées pour arriver à cette épaisseur-là. Mais quand on prend des agneaux très petits, c'est leur épaisseur naturelle.
D'accord.
Voilà.
Donc, une fois que nous avons choisi notre cuir, après, nous avons donc coupé, nous avons placé notre patronage sur les différentes peaux, nous découpons. Vous
oui.
découpez, est-ce que vous découpez comme le tissu avec des ciseaux ou est-ce que vous coupez avec des cutters, avec des couteaux? Comment vous coupez?
Avec des lames, effectivement. Des lames, donc à l'époque, les coupeurs de cuir utilisaient ce qu'on appelle des chasse-peaux. Et de plus en plus, ça se perd parce que les coupeurs sont devenus fragiles. Non, ils ne sont pas devenus fragiles, mais il y a des maladies professionnelles qu'on trouvait très fréquemment avant parce qu'à force de forcer sur leurs poignets, sur leurs coudes,
oui.
etc., avec ces chasse-peaux qu'ils aiguisaient plus ou moins fréquemment pour arriver à bien couper leur peau, ils arrivaient à se blesser.
Ah oui.
Petit à petit par les années qui passent.
D'accord.
Alors que maintenant, de plus en plus, les coupeurs ont pris l'habitude de couper avec des lames de fourreur.
D'accord.
Qui sont comme des lames de rasoir qu'on met au bout d'un manche comme pour un rasoir et qui permettent de couper, de faire une coupe plus franche et sans avoir à appuyer. Donc c'est plus confortable pour le coupeur. Donc aujourd'hui, heureusement, mes coupeurs vieillissent mieux que par le passé.
Oui, c'est mieux pour vous, c'est mieux pour eux aussi. Mais alors, est-ce que ça veut dire, Alain, que là aussi, contrairement au tissu, où quand on coupe au ciseau, on s'y reprend comme ça à plusieurs fois, là, ça veut dire que du coup, on doit découper un peu d'un geste assez franc pour pas avoir de petites...
Oui, mais on peut pas... On doit découper avec une constance dans la pression qu'on met sur la peau, mais on doit quand même suivre le mouvement du
oui.
patronage. Donc,
oui.
on ne peut pas, et même s'il y a une ligne droite à couper dans certains moments du patronage, on va pas prendre une règle et couper le long de cette règle. On va vraiment couper le long de patronage. C'est pour ça qu'il nous faut des patronages en carton pour que la lame puisse venir s'appuyer sur le carton sans rogner le patronage à chaque passage.
Eh oui, c'est ça. Là aussi, déjà, dès la coupe aussi, nous n'avons pas le droit à l'erreur. C'est un mauvais coup de cutter ou de couteau, j'ai envie de vous dire. Et là, c'est foutu,
oui,
ça y est.
Oui, et puis un coupeur qui, par inadvertance, par inattention, laisserait passer un défaut en même temps... peut ruiner complètement la qualité d'un vêtement.
Et oui, je comprends bien. Donc une fois que cette partie est finie, l'étape suivante, c'est laquelle ? C'est-à-dire, c'est le montage ?
C'est tout à fait ça, c'est le montage. Donc le montage du cuir nécessite aussi d'autres manipulations que celles qu'on utilise pour le tissu. Donc toutes les coutures qui sont ouvertes doivent être pré-encollées de façon à tenir avant d'être piquées. Donc
oui.
les mécaniciens de cuir... collent
oui.
leurs coutures,
oui.
assemblent les morceaux et ils les piquent après. Donc il y a tout un travail de préparation avant de piquer en soie. Quoi.
C'est ce qui remplace, lorsque l'on travaille en tissu, c'est ce qui remplace en fait les petites épingles.
C'est ce qui remplace les petites épingles, puisque nous on ne peut pas bâtir effectivement les vêtements, donc on est obligé d'en coller. Et une fois que c'est encollé, ça ne peut plus bouger.
Oui.
Et donc, il y a deux techniques de fabrication dans les vêtements de cuir. Il y a la technique qu'on utilise chez nous, c'est-à-dire qu'un mécanicien va fabriquer un vêtement en cuir du début jusqu'à la fin.
Oui.
Il n'y a pas d'étape qui soit faite par quelqu'un d'autre. Ça,
d'accord.
c'est ce qu'on utilise pour tout ce qui est prototype, pièces de défilé, etc. et pour les petites séries. Dans ce qui est... séries plus importantes, on a là des ateliers qui sont effectivement... un peu plus, j'allais dire à la chaîne, c'est pas ça du tout, mais pour chaque mécanicien, il y a ce qu'on appelle un tableur. C'est-à-dire que le mécanicien ne va pas se lever de sa machine à coudre, il va rester à sa machine à coudre. Par contre, à côté, il y a un tableur qui a une table et un pot de colle et un marteau pour taper sur les coutures qui sont encollées, qui va faire tout le travail de préparation. Une fois que les morceaux sont préparés, entoilés, encollés, il les passe au mécanicien qui va les piquer et monter le vêtement. Donc,
c'est un vrai travail d'équipe.
Un vrai travail d'équipe.
D'accord. Donc, c'est un peu comme un assistant qui vous prépare au fur et à mesure, en fait, votre vêtement. Et hop, le couturier continue de faire.
Et effectivement, le mécanicien est un peu le seigneur de cette équipe-là. Le tableur étant celui qui est un exécutant plus qu'autre chose.
Mais alors, avant de faire ce vêtement, donc avant de l'assembler, est-ce que l'on fait comme dans les vêtements encore une fois, en tissu, est-ce que l'on fait une toile avec une toile ?
Alors, bien sûr.
On est d'accord.
Alors, nous, mon principal client, c'est Chanel.
Oui.
Donc, Chanel, aujourd'hui, nous donne des croquis et c'est nous qui faisons toutes les étapes suivantes.
D'accord.
C'est-à-dire que j'ai un bureau d'études avec des modélistes et des patronniers qui font les modèles de collection à partir de croquis qui nous sont donnés par Chanel.
Oui.
Donc Chanel nous donne des croquis et des indications. À partir de ces croquis et des indications, j'ai des jeunes femmes chez moi qui sont des modélistes,
oui,
qui font un modèle soit par moulage, soit à plat selon les vêtements. Et à partir de ce moulage, de ça, on fait une première toile qu'on envoie chez notre client pour être validée. À partir du moment où cette toile est validée, souvent elle n'est pas la première parce que
oui,
y a souvent des petites modifications
c'est
à apporter.
Comme ça.
Et donc on modifie la toile jusqu'à ce qu'elle soit validée.
Et jusqu'à ce qu'elle soit parfaite, parce que du coup, comme on le disait
parfaite.
Depuis le début, là, une fois qu'on va s'expliquer, c'est piqué.
Et une fois que la toile est validée, c'est là où on passe à l'étape du patronage. Donc on fait un patronage adapté, encore une fois, aux tailles de peau. Ce patronage nous sert à couper et à monter le vêtement.
D'accord. Quand on procède à l'ébauche comme ça de l'habit, est-ce que c'est ce qu'on appelle la bûche ?
Alors la bûche, non. La bûche, c'est ce qui arrive après la coupe.
D'accord.
Les coupeurs, une fois qu'ils ont coupé leur cuir en fonction du patronage, étalent tous les morceaux et la roulent dans un espèce de petit ballotin qui ressemble effectivement à une bûche, et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça.
Et pourquoi est-ce qu'on roule les morceaux comme
ça ? Et pour pas les plier, si ça fait des plis, votre morceau, il est mort.
Voilà, donc c'est encore une différence.
Exactement.
Où dès que vous faites quelque chose, il ne faut pas plier le tissu. Et là, on est sur du cuir, donc il faut constamment le rouler.
Il faut éviter tous les plis, parce que les plis marquent très facilement.
Oui.
Et c'est même au repassage, on a beaucoup de mal à les rattraper par la suite. Donc on évite tout ce qui est plis. C'est pour ça qu'effectivement, on roule en bûche.
Donc au niveau du montage, si on revient au montage, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, il y a des machines différentes du prêt-à-porter en chaîne et trame, encore une fois, donc en tissu. Est-ce qu'il y a différentes machines en fonction du montage du vêtement, c'est-à-dire en fonction de... Est-ce qu'il y a une machine différente pour la manche, pour le col, pour qu'est-ce qui diffère ?
Non, parce qu'il n'y a pas d'automate. Chez nous, dans les vêtements de cuir, il n'y a pas d'automate. Moi, j'ai travaillé dans le prêt-à-porter en confection de vêtements de tissu. Et effectivement, il y a une machine qui va vous faire les poches, une machine qui va vous faire le col, etc. Chez nous, il n'y a pas ça. Il y a des machines qui doivent être capables de faire l'ensemble du vêtement et des mécaniciens qui sont capables de faire l'ensemble du vêtement. Il n'y a aucune partie qui est automatisée.
Donc, mine de rien, là, depuis le début, on parle, on explique, mais en fait, il y a énormément de différences. On peut même dire que c'est quasiment un autre métier. Ça n'a rien à voir avec la fabrication d'un vêtement en tissu.
C'est un autre métier et c'est un métier compliqué parce qu'effectivement, justement, même les professionnels ne se rendent pas toujours compte de la différence de temps qu'on va mettre pour couper et préparer et monter un vêtement en cuir que le temps qu'on met pour couper et monter le même vêtement en tissu.
Oui.
Souvent, il nous faut, pour monter un vêtement assez simple, il nous faut plus d'une journée, donc entre 8 et 12 heures pour monter un vêtement en cuir, alors que par l'automatisation qu'on peut avoir dans les vêtements en tissu, on va mettre 4 ou 5 heures pour faire le même vêtement.
Donc ce qui explique, on est bien d'accord qu'il y a une différence de prix, donc quand on monte une veste en tissu et quand on monte une veste en cuir. C'est expliqué déjà, en fait, c'est justifié en tout cas, justement, par rapport à...
C'est justifié par toutes les étapes de la fabrication, effectivement.
Oui. Et aujourd'hui, est-ce que vous constatez une différence ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez toujours autant de commandes ? Est-ce que vous constatez qu'il qu'il y a moins de commandes avec le temps? Qu'est-ce qui a changé en fait? Fait combien de temps que vous faites ce métier d'abord?
Alors moi, ça fait 15 ans que je suis dans la fabrication de vêtements de cuir. Avant, j'ai fait des passages par le prêt-à-porter aussi, en tant que commercial, en tant que manager, etc. Mais ça fait 15 ans que je suis à la tête d'une entreprise de fabrication de vêtements de cuir. Ce qui a changé, c'est d'abord les approvisionnements de cuir.
Oui.
Jusqu'à il y a une dizaine d'années, l'essentiel des peaux que nous traitions en France, que nous fabriquions, étaient des peaux qui venaient de France ou d'Espagne, avec une qualité assez régulière, assez suivie.
Oui.
Depuis la mondialisation, on a des peaux qui peuvent arriver un peu de partout, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Afrique du Sud, du Moyen-Orient, etc., avec des spécificités, même si pour le commun des mortels, un agneau, c'est toujours un agneau. Un agneau, c'est pas toujours un agneau quand il s'agit de peau. Donc, il y a des agneaux qui sont plus ou moins gras, plus ou moins maigres, et en fonction de leur physionomie, la peau va être différente.
D'accord.
Un agneau qui mange peu d'Espagne, qui mange peu, qui mange de l'herbe sèche, etc., il va être beaucoup moins gras, il va avoir une laine moins fournie, donc la laine va moins tirer sur le cuir, sur la peau, et donc on va avoir des peaux beaucoup plus belles que celles qui sont sur des agneaux. On parle souvent d'une qualité qui s'appelle du domestique anglais. Vous voyez ces espèces de gros moutons anglais avec plein de poils partout. C'est très joli comme ça, mais ça fait des peaux qui sont très moches.
D'accord. Mais alors du coup, on parle presque plus, quand on parle de qualité de peau pour faire un vêtement en cuir, c'est un peu la même qualité que celle que l'on recherche pour manger la bête, non? C'est-à-dire qu'une bête qui est bien entretenue, qui a un beau muscle, est-ce qu'elle aura un meilleur cuir ou
Oui, mais c'est surtout l'origine de la race qui va
D'accord.
faire la différence. On ne peut pas dire, on ne va pas prendre dans un troupeau et choisir les 10 plus beaux agneaux sur les 100 qui sont là. Non, on va choisir un agneau d'un troupeau qui est à tel ou tel endroit, dans tel ou tel pays, selon sa race, et non pas selon la taille et le poids de chaque animal en lui-même.
Oui. D'accord. Et justement, pour les auditeurs, je suis sûre que tout le monde se pose la question. Est-ce que l'agneau qui est utilisé pour le cuir est aussi utilisé pour la viande pour manger?
Alors tout est là. Tout est là. Parce qu'il n'y a aucun agneau qui est utilisé uniquement pour sa peau. Aucun. On ne fait pas d'élevage d'agneau pour faire du cuir.
Mais c'est important de le dire.
Oui, c'est important de le dire. Parce que le jour où les gens mangeront plus de viande, on n'aura
plus de cuir. Voilà.
Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la question qu'on s'est posée, parce que vous me demandiez tout à l'heure si la mode du cuir était toujours la même, s'il y avait la même progression. Alors je dois dire que oui, nous sommes toujours sur un marché qui est plutôt porteur, mais on s'est posé les questions, parce que les ventes cet été globalement étaient un peu moins bonnes. Autant les ventes de l'hiver étaient meilleures que celles de l'année d'avant, et que celles de l'année d'avant, etc. Autant les ventes de l'été 2018 étaient assez faibles.
D'accord.
Et du coup, on s'est posé la question avec mes clients, etc. On a réfléchi, on a dit, est-ce que ce serait pas un début de mode vegan les jeunes femmes veulent plus se mettre une peau d'animal sur le
Peut-être.
Dos, etc. C'est une question qu'on est en droit de se poser. Aujourd'hui, elle se pose très fortement pour les fourreurs qui sont en première ligne, mais à la différence de nous, les fourreurs utilisent la majorité de leur fourrure uniquement pour la peau de l'animal et non pas pour sa viande.
Oui, voilà, mais c'est une très grande différence. C'est important de le noter parce qu'effectivement, pour toutes les personnes qui pensaient qu'on tuait les animaux uniquement pour leur cuir et qu'on balançait à la poubelle la viande, non. Donc si vous mangez un steak, on utilise aussi le cuir et on en fait quelque chose. Peut-être pas avec vous, hein, Alain,
mais avec d'autres personnes, parce qu'effectivement,
il y a aussi la chaussure, le sac à main, etc. Les cuirs sont différents.
C'est vrai que c'est assez symbolique, parce que en Espagne, quand il y a 5 ou 6 ans une crise économique importante, les Espagnols avaient pour habitude de manger des côtelettes d'agneau au barbecue tous les week-ends, etc. Et tout d'un coup, ils ont arrêté de faire ça parce qu'ils n'avaient plus tous les moyens.
Oui.
Et donc, il y a beaucoup d'Espagnols qui ont arrêté de manger leurs côtelettes d'agneau sur barbecue tous les week-ends. Et du coup, la production d'agneau espagnol a beaucoup baissé, ce qui a fait monter les prix et ce qui a fait qu'on est allé aussi chercher des agneaux ailleurs pour s'approvisionner, etc. Ce qui a bouleversé tout le marché. Un simple problème de consommation de viande en Espagne a eu des répercussions sur tous les prix et la façon de s'approvisionner les cuirs sur le plan mondial.
Ouais, c'est toute une chaîne, en fait.
Voilà, exactement.
Et est-ce que vous avez encore du mal, du coup, qu'on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a encore quand même des cuirs français ou très peu, ou c'est quasi inexistant? C'est une denrée rare? C'est en voie de disparition? Comment ça se passe?
Non, il y a encore des cuirs français. Il y a encore des cuirs aveyronnais en général, de toute cette partie du sud du Massif central, où il y a encore beaucoup de moutons avec
lequel de bonne qualité,
avec lequel on fait le roquefort, hein, et entre autres, et qui sont de très bonne qualité, parce que ce sont des agneaux pareils qui sont élevés de façon saine, etc. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi toute une chaîne alimentaire des animaux qui servent à la nourriture, qui sont plus élevés de façon à l'ancienne, qui vont dans les prés, etc. Il y a des animaux qui sont élevés avec des farines animales, etc.
Exactement.
Et cela, la qualité, même si on reste sur la même base de peau dont je parlais tout à l'heure, selon l'origine et la race du mouton, selon leur alimentation, elle peut à terme changer aussi la structure de la peau de l'animal.
D'accord. Et au niveau du tannage aussi, tout se fait... Généralement, quand vous avez une peau française, est-ce que ça veut dire que le tannage se fait en France, ou est-ce que vous pouvez avoir une peau française et le tannage se fait ailleurs?
Alors, des peaux françaises tannées ailleurs, aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus.
D'accord.
Les peaux que j'achète en France, il y en a quand même heureusement encore beaucoup.
D'accord.
Des agneaux plongés en particulier.
Nous sommes heureux de le savoir.
Voilà, sont des peaux qui sont à majorité françaises et encore espagnoles. Après, je m'approvisionne aussi beaucoup en Italie, puisqu'en Italie, ils ont plus de créativité, plus de fantaisie, etc. Et là, en Italie, ils achètent plutôt leur peau d'autres origines. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, oui. Australie, dont on parlait tout à l'heure, Moyen-Orient pour avoir des peaux plus petites, etc. Donc, il y a différentes origines qu'on est obligé de contrôler aujourd'hui,
oui,
parce que tous nos acheteurs nous demandent certifier l'origine de la provenance des peaux que l'on achète et qu'on leur fournit. Donc aujourd'hui, on a une chaîne qui est quand même très suivie. On a un suivi de l'origine des peaux, de l'endroit où elles sont, de la façon même dont les bêtes sont tuées.
Oui, faut pas croire, mais c'est compliqué tout
Exactement.
Ça.
Exactement. Tout devient très, très compliqué. On est obligé de fournir de plus en plus de certificats d'origine, etc., avec des certificats qui sont vraiment très, très poussés dans les demandes qui sont faites par les clients.
Ouais, c'est une traçabilité du coup très
Exactement.
Poussée, beaucoup plus d'ailleurs que pour le textile.
Exactement.
Donc ça aussi, c'est important de le noter. Si on revient à la fabrication...
On dit aussi que le cuir, le tannage, etc. polluent. Alors c'est vrai que la majorité des produits qui sont utilisés pour le tannage aujourd'hui ne polluent pratiquement plus,
ouais,
que toutes les tanneries ont des stations d'épuration, etc. Ils jettent plus les produits de tannage dans la rivière ils pouvaient faire il y a 50 ans. Aujourd'hui, tout le métier a complètement changé. Tous les produits chimiques agressifs, etc. ont été éliminés.
Oui.
Tous les produits qui restent pour le tannage, les colorants, etc. vont dans des bassins de décantation. Donc, il n'y a plus de tannage sauvage comme il pouvait y avoir avant.
Oui, donc voilà. Ça aussi, pour ceux qui pensent encore
et
que
aujourd'hui,
ça a changé.
Aujourd'hui, une teinture d'un ballot de coton pour faire des t-shirts va polluer autant que une tonne d'agneau pour faire des vêtements en cuir. Donc on a l'approche du client n'est pas la même, parce qu'elle a l'impression que c'est un animal vivant alors que le coton c'est du végétal, mais en fait le niveau de pollution est souvent le même, sinon plus important dans le tissu que dans le cuir.
Et ça, c'est important de le noter aussi. Est-ce que vous avez constaté, Alain, une évolution aussi dans la consommation du vêtement en cuir? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on parle d'une surconsommation de mode, effectivement, avec les tendances, etc. etc. Mais est-ce que ça touche vraiment le vêtement en cuir? Est-ce qu'on n'a pas envie de dire que quand on achète un vêtement en cuir, on va le garder beaucoup plus longtemps que le t-shirt qu'on achète au magasin du coin?
Alors, moi qui ai la chance pour travailler pour les marques les plus prestigieuses qu'il peut y avoir en France, Chanel, Hermès, Dior, Paco Rabanne, Minarici, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est vrai que les grands-mères qui achetaient à l'époque même un sac Hermès ou une veste en cuir Hermès, l'acheter en se disant « je la passerai à ma petite fille ». C'est ce qui se passe encore pour les sacs, mais plus pour les vêtements. Quoi.
Oui.
Aujourd'hui, d'abord, les vêtements doivent être à la pointe de la mode.
Oui.
Les vêtements en même en cuir, doivent être à la pointe de la mode et avoir apporter beaucoup de créativité pour se démarquer, puisque je travaille que pour le haut de gamme,
oui.
Pour se démarquer d'un vêtement en cuir, je dirais basique. Donc, mes clients cherchent de plus en plus de créativité et cherchent pas forcément la pérennité de leurs vêtements au fil des années.
Bien que, on est d'accord que les vêtements que vous faites peuvent durer très 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 longtemps.
Ah, moi, je fais toutes les retouches des boutiques Chanel et Hermès de Paris.
Oui.
Et je peux vous dire que je reçois parfois des vêtements qui ont 10, 15, 20 ans d'âge, quoi.
Ouais, qui sont encore complètement métables. C'est juste, voilà, ils sont un petit peu.
Qui sont encore tout à fait. En général, c'est la doublure qui craque, le zip qui craque, les choses comme ça, pas le cuir. Ça arrive que ce soit les coutures du cuir qui. Et bon, on arrive toujours à les réparer.
Oui, parce que là, c'est compliqué, en fait. Parce que tout à l'heure, on évoquait effectivement quand on pique du cuir. C'est pas comme du tissu, les trous sont là, ils vont rester là. Donc comment on fait quand on doit faire une retouche, etc. Ça veut dire que vous repassez exactement dans les mêmes trous ? Comment ça se passe ?
On est capable de faire ça, de repasser dans les mêmes trous. Et en général, alors pas sur toutes les matières, parce que comme je vous disais, on a certaines fantaisies qu'on peut pas garder en stock pendant 10 ans ou 15 ans, mais sur des coloris noirs, en fait, qu'on retrouve quand même assez souvent dans les vêtements en cuir, des coloris comme ça, on a toujours une matière qui va se rapprocher et le client, si on lui fait une retouche au bout de 15 ans où il a porté son vêtement, il accepte en général qu'il y ait une petite nuance dans la retouche qu'on
bien
va faire
sûr.
Pour lui, quoi.
Et combien de peaux faut-il, par exemple, pour une veste, j'ai envie de vous dire, tailleur, basique, à peu près ? Vous utilisez combien de peaux ?
Entre 6 et 8 peaux, selon la taille des peaux. Donc, effectivement, voilà. Il faut entre 6 et 8 peaux. Alors, je fais aussi pour certains clients que je ne nommerai pas des vêtements en crocodile.
Oui, oui, oui.
Et là aussi, il faut entre 8 et 10 peaux de crocodile, puisqu'on n'utilise qu'une petite partie, c'est la partie du ventre qui est la plus souple, etc., qui permet de faire du vêtement. Les autres parties de la peau du crocodile sont complètement inutilisables. Donc, il faut entre 8 et 10 peaux de crocodile pour faire un blouson en crocodile. Donc, effectivement, sachant qu'une peau de crocodile, ça vaut aujourd'hui 1 500 €, comptez 10 peaux pour faire le vêtement, vous avez déjà une idée de prix.
Vous ajoutez à ça le prix de la façon, le prix de la doublure, le prix, de tous les petits accessoires, et puis la marge.
La façon, la doublure, les accessoires, etc., reste ridicule par rapport au prix des peaux et à la marge.
Eh oui, c'est ça, voilà. C'est ça, on est bien d'accord. Et concernant le temps, donc pour cette même veste, voilà, cette veste de tailleur 6-8 peaux, ok, ça représente combien de temps si on la fait dans le cuir agneau, hein ?
Si on la fait dans un cuir agneau, il y a le temps de coupe qui, en général, alors il y a deux étapes dans la coupe. Il y a le tri, parce que même si on reçoit un lot de 1000 peaux pour faire 300 vêtements, les 1000 peaux de cuir, elles ne vont pas être identiques, même en couleur, même si c'est du noir, on ne va pas pouvoir faire toutes les vestes avec toutes les peaux sans regarder la couleur.
Oui.
Donc si on dit qu'il faut 7 ou 8 peaux pour faire telle veste, on va faire des tris. Les coupeurs vont trier 7 peaux par 7 peaux, 8 peaux par 8 peaux, de façon à avoir des vêtements qui soient tout à fait homogènes en couleur.
Mm-hmm.
Une fois que ce tri est fait, il y a la coupe en elle-même. Donc entre les deux étapes, il faut compter qu'il faut au moins 2 heures pour couper une veste.
Oui.
Entre le temps du tri, le temps de la coupe en elle-même, alors que si vous avez un matelas de tissu, vous pouvez couper 20 vestes en même temps avec une lame épaisse, ça va beaucoup plus vite.
Oui, pour les auditeurs qui ne savent pas ce qu'est un matelas dans le prêt-à-porter, un matelas, c'est-à-dire que l'on met plusieurs couches de tissu les unes sur les autres et avec des lames, des grandes lames, en fait, on coupe, on va dire, je sais pas, 10, 15, 20 vestes en même temps. Donc, si vous voulez, on découpe les formes en même temps. Ce qu'on ne peut pas du tout faire en cuir, donc vous êtes obligé de réaliser un vêtement par un vêtement. C'est
exactement,
ça la différence.
Exactement.
Donc, une fois que cette étape est faite, après, il y a la piqûre, justement.
Une fois que cette étape est faite, effectivement, il y a le temps de montage, donc
Mais
la piqûre. Et là aussi, le mécanicien va beaucoup moins vite. D'abord parce qu'il n'y a pas d'automate, comme on le disait tout à l'heure, et parce qu'il n'a pas droit à l'erreur.
Eh oui, grande concentration.
Donc il est obligé de faire très attention. Tous mes mécaniciens, vous les verrez, ils travaillent avec un réglé.
Oui.
Parce que, c'est pareil, nos clients sont très exigeants. Ils sont en droit de l'être,
bien
puisque
sûr.
C'est le haut du pavé. Et donc, ils sont très exigeants quant à la régularité des mesures qu'ils nous donnent. On doit respecter, je dirais, au demi-centimètre près, toutes les mesures qui nous sont données. On n'a pas le droit d'avoir des écarts, etc. Parce que quand une cliente Nina Ricci ou Chanel va dans une boutique acheter un 38, elle veut que le 38 corresponde à celui qu'elle a l'habitude d'acheter et non pas qu'elle soit obligée d'en acheter trois pour trouver celle qui lui va.
Oui, et là, du coup, ça veut dire que c'est combien d'heures supplémentaires
alors,
du coup, pour le montage.
C'est ce que je vous disais, une pièce en tissu qu'on va mettre 4 heures pour monter, il en faut 8 ou 10 pour monter la même pièce en cuir, plus le temps de coupe qui est augmenter aussi, donc on arrive à des prix.
On est déjà sur plusieurs jours de travail déjà.
Exactement.
Oui, parce qu'après il y a la doublure, et après
il y a les boutons, il y a les finitions, etc. Et le repassage, parce que tout le monde croit que le cuir se repasse pas, mais je peux vous montrer un vêtement en cuir non repassé et un vêtement en cuir repassé tel qu'on le livre à nos clients. Vous n'en croyez pas vos yeux tellement la différence est importante.
Et alors on repasse comment un vêtement en cuir ? On le repasse avec un fer ?
Ah ben on le repasse avec un fer. Avec un repassage assez doux en température et avec une doublure qui, avec une pâte sèche, comme on appelle,
oui.
C'est pas une pâte mousse, c'est une pâte sèche,
oui.
Qui permet d'isoler le cuir de la semelle du fer, quoi, de façon à ce que la chaleur et la pression soient pas trop importantes.
Alors là aussi, c'est tellement fragile, c'est encore une étape très
là
particulière.
Là aussi, c'est tellement fragile. Et je vous disais que je repasse les vêtements de mes clients finaux, de mes clients Chanel, etc. Et il m'arrive d'avoir des vêtements où on me dit « Ah, mais la femme de ménage, elle a mis le fer un peu chaud sur le milieu de mon vêtement. Faites quelque chose. » Et là, je suis obligé de changer la peau. Donc, s'il m'en reste, je peux le faire facilement. S'il ne m'en reste pas, ben, selon le client, on refait le vêtement, on ne le refait pas.
Et oui.
Et voilà.
Et alors là, vous avez combien de personnes, Alain, qui travaillent pour vous en tout ?
Alors ici, j'ai 35 personnes en permanent. Et plus dans les périodes de chauffe, je dirais, les périodes importantes. C'est-à-dire, en général, c'est le mois de mai, juin, juillet, où on est censé livrer toutes les productions de l'hiver. C'est les mois les plus importants parce que même si aujourd'hui on vend pas mal de petites pièces en cuir sur l'été, ça reste quand même beaucoup moins important que sur l'hiver. D'autant qu'on a un choix de qualité de cuir en hiver qui est beaucoup plus important que sur l'été parce qu'on fait aussi ce qu'on appelle les pollenés, donc un côté cuir, un côté poil, qui sont montés de manière un peu différente, qui ne sont pas doublés, etc. Mais on fait pas mal de vêtements comme ça, en ce qu'on appelle double face ou pollenés. Et alors qu'en été, on n'a pas du tout cette possibilité-là. Donc effectivement, on a des volumes et des prix de façon, etc., sur les vêtements d'hiver qui sont beaucoup plus importants. Et donc, effectivement, les mois de mai, juin, juillet, en général, sont des périodes pour nous très importantes.
Et vous doublez l'effectif, ça veut dire ?
Alors, on ne double pas l'effectif parce que j'ai une grande partie de ma production qui est faite dans des ateliers extérieurs.
Oui.
J'ai des façonniers à Paris, j'ai 5 façonniers qui travaillent. Ils ne travaillent pas tous les 5 que pour moi, mais j'en ai 3 qui travaillent que pour moi et 2 autres qui travaillent pour moi et pour certains de mes concurrents.
Oui.
Même si on ne peut plus parler tellement de concurrents aujourd'hui parce que des fabricants de vêtements de cuir sur Paris, on n'est plus très nombreux.
Oh ben non, c'est sûr.
Et donc, moi, je fabrique pour Chanel, pour Hermès et puis pour quelques petits clients. Il y a un de mes confrères qui travaille pour Vuitton, il y a un de mes confrères qui travaille pour Dior.
Oui.
Et puis les autres, aujourd'hui, malheureusement, ils ne font plus beaucoup fabriquer en France.
Voilà. Oui, c'est ça.
Donc, ce sont c'est des concurrents, mais on se bat pas, on reste chacun sur son pied carré.
Oui, puis vous êtes assez complémentaires.
Et
donc chacun sa spécialité,
exactement,
en plus.
Exactement. Et du coup, donc on est 35 en permanent chez nous, mais dans les périodes où on a justement beaucoup de travail, etc., rien qu'au niveau de la coupe, je suis obligé de prendre, j'ai 6 coupeurs permanents et on monte à 12, effectivement, dans les périodes de coupe importantes pour l'hiver. Et mes façonniers, eux aussi, augmentent leurs effectifs, pas de façon très importante, parce qu'en général, ils ont des petits ateliers d'une dizaine, quinzaine de personnes. Donc, s'ils sont 12, ils vont passer à 15, s'ils vont 15, ils vont passer à 20, mais ça va pas pas beaucoup plus loin que ça. Oui. Mais moi, je donne à fabriquer pas mal de pièces à l'extérieur pour la production, mais pour la coupe, tout est coupé. Je vous ai dit, c'était la première étape de la qualité et tout est coupé en interne chez moi. D'accord. Je donne rien à couper à l'extérieur.
Et pour les auditeurs, quand Alain nous dit qu'il donne à l'extérieur, c'est pas à l'extérieur de la France, c'est juste à l'extérieur de son atelier.
Voilà. Pour moi, toute la fabrication est faite à Paris et en banlieue parisienne.
Et ça, c'est très important et on est bien ravis justement d'avoir des personnes comme vous, parce que nous, dans les petites mains, on adore la fabrication française. Et donc ça, c'est vraiment un point très important. Et alors là, fabrication en plus parisienne, on peut quand même bien le noter et le spécifier, parce que c'est quand même assez rare, donc il faut le dire. On est là sur un produit français-parisien.
Ça me permet aujourd'hui de répondre à des exigences de rapidité qui sont de plus en plus importantes, parce qu'avant, on faisait deux collections par an, une collection hiver, une collection été, et puis on a fait 3, puis on en a fait 4, puis on en a fait 5. Aujourd'hui, on est à 6 dans la majorité des maisons, sans compter les shows qui peuvent être faits à droite, à gauche, qui donnent encore des séries complémentaires. Donc aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de temps de repos.
Hein. Oui,
alors,
ça c'est sûr.
Alors c'est une bonne chose pour le personnel, parce qu'on arrive à avoir du personnel qu'on occupe toute l'année, mais ça veut dire que la pression sur nous, elle est toute l'année aussi.
Oui, c'est sûr, je vous confirme. Mais aussi, il faut dire, oui, c'est ça. C'est-à-dire que non seulement c'est bien parce que on fait de plus en plus de collections à l'année, mais il faut dire aussi que c'est important et pour nous, on adore dans la mode, c'est-à-dire avoir des personnes qui sont à Paris parce qu'il y a aussi cette proximité qui permet une rapidité. Et voilà, quand on a quelque chose à voir, on sait que vous êtes là, on se déplace.
Oui,
ça, c'est quand même bien sympa.
Vous me donnez une série de 150 pièces à livrer. Je ne vais pas vous dire, je vous livre les 150 pièces dans 2 mois. Je vais vous en livrer 10 la semaine prochaine, 10 la semaine d'après, etc. Ce qui vous permet d'alimenter vos clients boutiques au fur et à mesure de leurs besoins, etc. Donc tout le monde est gagnant,
ouais,
finalement.
Ça, c'est bien ça. Et l'impact carbone s'en ressent aussi. Très bien. Et nous, chez les petites mains, on aime bien avoir quelques petites anecdotes. On va dire, qu'est-ce qui vous a le plus marqué là, dans votre carrière comme expérience positive ou négative, hein, ça, on s'en fout.
Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Non, ce qui m'a le plus marqué, c'est en 2009, quand il y a eu la crise du prêt-à-porter de luxe en France.
Oui.
Vous vous souvenez, la crise des banques, etc.
Oui.
Il y a beaucoup des clients de nos grandes marques de prêt-à-porter français dont on parle depuis tout à l'heure, qui étaient des brokers à Londres ou à Paris, etc., dont les femmes avaient des cartes platinium qui pouvaient s'acheter ce qu'elles voulaient quand elles voulaient. Mm-hmm. Et tout d'un coup, ça s'est tombé. Et les ventes de toutes les grandes marques de prêt-à-porter ont baissé de 25 à 35% d'une manière générale. Et donc, mon chiffre d'affaires a baissé tout d'un coup de 35%. Et donc, j'ai fait des études pour mettre des gens chez moi au chômage partiel, etc. Et puis finalement, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, je vais aller demander à Chanel, qui reste mon client, mon principal client, je vais aller le demander de m'aider. Je suis allé voir le directeur de la maison Chanel prêt-à-porter, monsieur Bruno Pavlovski. Et je lui ai dit, Bruno, je suis désolé, il faut m'aider. Il me dit, Alain, il vous faut combien? J'ai dit, je veux pas de sous, je viens pas vous demander des sous, je viens vous demander de la production.
Oui.
Il me dit, écoutez, Alain, je pars en vacances demain matin, combien il vous faut pour passer cette étape difficile, ce passage difficile, sans licencier de personne, parce que j'ai besoin que vous gardiez votre personnel qualifié. Donc, j'ai dit, il me faut 500 pièces.
Ouais.
Il me dit, je pars en vacances demain matin, mais passez demain voir la directrice commerciale, elle vous donnera une commande pour 500 pièces.
C'est vrai.
Et ils l'ont fait.
Oh.
Et ça, j'ai trouvé que c'était un vrai partenariat, parce que souvent il y a des maisons de prêt-à-porter qui vous parlent de partenariat, mais souvent c'est des mots.
Oui, parce que là en plus c'est sans garantie derrière de vendre, parce que là c'était la crise pour tout le monde.
Et c'était sans garantie de vente. Ils m'ont fait, sur 3 modèles, ils m'ont fait 500 pièces à mettre en boutique qu'ils n'étaient pas sûrs de vendre.
Oh là là.
Et ils l'ont fait.
Ça, c'est sympa.
Et ça, c'était, j'ai trouvé ça une grande expérience et une belle attitude de la part de ce client qui est important pour nous.
Ah ouais, non, mais ça, c'était vraiment bien. C'est rare. Hein.
Ça devient très, très rare.
Et oui.
Et je dirais que ça se fait encore dans des maisons où il n'y a pas de critères uniquement de rentabilité
et de
marge bénéficiaire à la fin, de gens, d'actionnaires qui doivent toucher des dividendes, etc. Ça peut exister encore dans les maisons comme ça, dans les maisons où on exige des dividendes et tout ça pour les actionnaires, ça devient très compliqué de faire ce genre de manœuvre.
Bon, heureusement pour nous que ça existe encore.
Exactement.
Mais du coup, cette crise qui a fait peur à beaucoup de monde et qui a dû faire du tort à certains qui pouvaient pas en fait tenir sur la longueur, ça a duré combien de temps ?
Ça n'a pas duré très longtemps, je dirais que ça a duré 8 mois, ça a duré 8-9 mois. Et effectivement, il y a des façonniers qui ont fermé pendant cette période-là, avec qui on a fait un partenariat pour qu'ils réouvrent quand on a eu besoin de nouveaux fabriqués. Mais c'est un process assez long quand même.
Ouais.
Et ça a été autant l'étape de nous donner ces 500 pièces a été très bénéfique pour nous et nous a permis de ne pas licencier le personnel, etc. Mais il y a eu quand même une période où nos façonniers étaient obligés de fermer leurs ateliers. Et quand il a fallu redémarrer parce que les commandes recommençaient à venir en volume, etc., il y a une phase de reprise qui est toujours longue aussi.
Ouais.
Qui est toujours longue aussi. Et ça a été une expérience qu'on a su passer aussi, mais qui n'était pas facile.
Et du coup, ça m'amène à vous poser la question du recrutement. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'avoir des personnes pour travailler avec vous dans le cuir, ou est-ce que ça devient aussi une denrée rare comme certains des métiers que nous avons vus dans les épisodes précédents ?
Alors, pour être tout à fait honnête, ça devient une denrée rare. Ça devient une denrée rare. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, des fabricants comme moi,
compte sur les doigts d'une main.
Voilà, on est quatre à Paris, plus il doit en rester deux en province, mais on est entre quatre et six quand tout va bien. La fabrication de maroquinerie, maintenant il y a des usines, effectivement, Vuitton, Hermès en montrent régulièrement des usines pour de la maroquinerie, mais c'est des usines. Alors ça, c'est pas du tout la même chose, le travail de maroquinerie.
Non,
c'est un travail qui est beaucoup plus automatisé, etc.,
oui.
Avec des emporte-pièces,
c'est un autre
des machines
métier,
automatiques,
là.
Etc. C'est complètement différent. Et donc, moi, je ne peux pas me reconvertir dans la maroquinerie, ou alors il faudrait, mais changer de machine, changer de parc,
formation, investissement,
exactement,
etc.
Changer
enfin,
de
c'est
métier,
un autre métier.
Changer
ouais.
de métier et tout. Donc, aujourd'hui, dans notre métier où on est peu nombreux à recruter, c'est vrai que ça devient difficile de recruter. Alors, dans les écoles de style, il y a plein d'élèves et ils veulent tous...
Tout le monde veut devenir styliste, c'est toujours le même truc.
Après, maintenant, ils ont compris que pour avoir du boulot, il fallait commencer par être modéliste. Heureusement, ils ont compris ça.
Ah, on a gagné une étape.
Voilà, on a gagné une étape, donc ça. Et aujourd'hui, j'ai deux jeunes femmes qui sont en formation, une depuis 2 ans et l'autre depuis 1 an, pour devenir mécanicienne cuir.
Et là, ça veut dire que ce sont des jeunes femmes, donc ce sont des personnes qui ont fait quoi comme formation avant ?
Alors, il y en a une qui a fait l'AICP,
oui.
Et l'autre qui a fait l'école de la chambre de commerce.
Donc en fait, c'est déjà une formation mode. C'est
des gens qui ont une formation mode, mais qui ont compris que dans les métiers de la mode, il y avait quelques métiers qui n'étaient pas forcément valorisants au niveau du titre, au niveau de ce qu'on peut faire, etc., mais qui pouvaient être valorisants, si je vous montre les feuilles de paye de certains de mes mécaniciens, ok, ils doivent travailler beaucoup dans les périodes de collection, etc., pour arriver à des payes comme ça, mais qui sont des feuilles de paye qui feraient envier pas mal de gens.
Oui, c'est ça, faut pas oublier de le dire.
Donc voilà, par contre, effectivement, il faut aussi sacrifier, parce que dans les périodes de collection qui reviennent très souvent maintenant, on travaille le samedi, on travaille le dimanche, on travaille tard le soir.
Mais c'est le cas dans beaucoup de métiers de la mode, mine de rien.
De la mode, bien
on
entendu.
On en parle assez régulièrement pour souligner encore, on rajoute une couche, on vous dit que nous travaillons beaucoup, toute l'année.
Voilà.
Il faut pas croire qu'on se tourne les pouces. Et ça veut dire que... Il n'existe pas de formation, par exemple, CAP, des choses comme ça, spécialisées avec cuir, il y a
quelques écoles dans la filière métier de la mode qui ont une formation spécifique cuir.
Oui.
Alors, spécifique cuir, ça ne veut pas dire forcément prêt-à-porter cuir.
Et oui.
Ça peut être aussi maroquinerie, etc. Donc, et puis, dans ces métiers, dans ces CAP ou bac pro, il y a beaucoup de gens qui sont là par hasard plutôt que... par choix. Mm-hmm. Et moi, j'ai fait partie souvent de jurés dans des écoles comme ça, qui avaient une école de spécialisation cuir. Et quand je voyais des élèves doués, je leur disais, mais venez, il y en a beaucoup qui préféraient être vendeuse chez Camailleux. J'en ai aucun qui s'est dit, ah bah tiens, ça peut être un métier intéressant de venir jusqu'à s'asseoir derrière une machine à coudre.
Et est-ce que vous pensez que c'est justement dû à encore un manque d'informations?
Oui, parce que on est quand même encore dans le milieu du prêt-à-porter, même si en cuir on n'est pas très nombreux, mais dans le milieu du prêt-à-porter il y a encore pas mal de métiers, il y a encore pas mal de gens qui continuent à fabriquer en France et,
oui.
Et avoir besoin de gens. Donc moi aujourd'hui c'est vrai que les écoles de stylisme, je ne travaillais pas beaucoup avec eux, mais de plus en plus, parce qu'effectivement autant au niveau, quand c'est des jeunes de 16-17 ans qui sont au niveau 18 ans, qui sont au niveau bas, qui ne se rendent pas compte, mm-hmm. mais une fois qu'ils ont fait 3 ou 4 ans de formation dans une école de mode, eh ben on leur dit c'est bien d'apprendre aussi la partie fabrication, etc. Et là, ils se rendent compte, effectivement, une fois qu'ils ont compris tout le mécanisme de fabrication, que ça peut être aussi un débouché intéressant pour eux.
Oui, et est-ce que ça vous est arrivé, par exemple, de prendre des jeunes ou des personnes qui n'avaient rien à voir avec l'histoire de la mode, etc., mais qui avaient envie d'apprendre le métier et que vous avez formé? Ça vous est déjà arrivé ou pas?
Ça, non, mais...
Et vous seriez prêt à le faire? Pourquoi pas?
Ouais,
ou
pourquoi
c'est compliqué?
Pas, non, mais pourquoi pas? Alors, il m'est...
Faut une motivation.
Alors, non, j'ai eu l'hiver dernier un jeune homme qui cherchait une formation et qui avait pas du tout de formation, et je lui ai fait pendant 6 mois une formation de coupeur.
Oui.
Malheureusement, je l'ai revu la semaine dernière, il cherche du boulot, j'en ai pas dans l'immédiat à lui proposer, mais il me dit, depuis que j'ai fini ma formation chez vous, je cherche du boulot et j'en trouve pas, quoi.
D'accord. Ouais.
Donc voilà, c'est un peu...
Bah c'est compliqué pour tout le
monde.
C'est
un peu compliqué. Je dis, moi, malheureusement, ma société, je suis aussi obligé de surveiller le nombre d'embauches, etc. Donc je ne peux pas prendre n'importe qui, n'importe quand. Mais c'est vrai qu'en particulier au niveau coupe, j'ai beaucoup de mes ouvriers qui arrivent à l'âge de la retraite. Il y en a même qui sont déjà retraités. Et que
normalement, qui ne devraient même plus être là.
Mais que je fais travailler dans les périodes de production importante.
Oui.
Donc je leur fais des contrats de 1, 2, 3 mois selon les besoins.
Ouais.
Ils sont contents parce que ça leur fait un petit supplément dans leur retraite. Et tout le monde est content. Mais c'est vrai que au niveau coupe, j'en ai formé 2 l'année dernière et je suis content de l'avoir fait parce que du coup, j'ai maintenant 2 coupeurs qui ont 35 ans et donc ils sont encore là pour 30 ans.
Oui, voilà. C'est ça. Non, il faut quand même, il faut savoir effectivement former des personnes pour la relève.
Au niveau coupe, c'est plus facile parce qu'il faut leur apprendre à reconnaître les peaux, à placer leur patronage, comme on disait tout à l'heure, sur la peau, etc. Mais une fois que cette technique est acquise, c'est assez facile de couper, etc. Tandis que monter des vêtements en cuir en machine, c'est long.
Autre chose.
Je vous dis, j'ai une personne qui est en formation en alternance puisqu'elle continue son école de mode, etc.
Oui.
Et qui est en formation chez nous. Au bout de 2 ans, elle n'est pas encore tout à fait capable de faire un vêtement entier.
Et il faut combien d'années alors?
Je ne peux pas dire puisque c'est la première expérience qu'on fait dans ce genre-là. Alors, elles sont capables de monter très bien une toile, mm-hmm. etc. parce que ça reste, je dirais, facile. Mm-hmm. Mais pour monter un vêtement en cuir en particulier... Je peux pas dire, mais je pense que là, la jeune fille qui est chez nous depuis bientôt 2 ans, je pense que bientôt elle va se lancer, elle va oser fabriquer son vêtement entier toute seule. Mais est-ce que je peux lui donner un vêtement pour Chanel ou pour Hermès à fabriquer?
C'est ça, en fait, l'étape est difficile. Hein.
Le passage est compliqué, ouais. Surtout que même Chanel, même Hermès, ils regardent les prix auxquels ils achètent aujourd'hui. Et je peux pas donner, si je donne 12 heures, comme on disait tout à l'heure, à mes ouvriers habituels pour faire un vêtement, je vais pouvoir donner 12, 13, 14 à cette personne-là pendant un moment, mais il ne faut pas que ça reste à ce niveau-là trop longtemps.
Il ne faut pas non plus qu'elle prenne son temps et qu'elle double les heures pour faire la même veste.
C'est quand même compliqué.
Il faut quand même compter, on va dire, 3 bonnes années,
ouais,
en tout cas,
si
au niveau de la couture, si on veut se lancer là-dedans.
Alors que ma compagne, elle a une société de fabrication de prêt-à-porter tissu, elle a un temps de formation qui est de, je dirais, de 6 mois plutôt que plutôt 3 ans, quoi. Donc voilà.
Mais du coup, vous avez fait vous parce que vous tout à l'heure vous nous avez dit que vous veniez du prêt-à-porter, donc tissu, quoi. Est-ce que vous avez fait une formation aussi au niveau du cuir ou est-ce que ça a été une histoire de rencontre? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes passé du tissu au cuir?
Alors moi, pas du tout. Je suis pas du tout. Au départ, j'ai fait une école de commerce, donc rien ne me prédestinait à travailler dans la mode. J'ai fait une école de commerce, mais le premier boulot que j'ai trouvé, c'était acheteur pour les magasins. C'était il y a, je vous parle de ça, d'il y a 40 ans. Mm-hmm. Il y a 40 ans. Et c'était mon premier boulot. Et du coup, c'est le premier pas que j'ai mis dans la mode. Et je suis resté acheteur chez CEA pendant 10 ans. Et puis, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Je suis devenu commercial pour une société allemande. Et puis j'ai fait des étapes comme ça. Et en fait, quand j'étais acheteur chez CEA, j'achetais tous les vêtements de dessus. Donc, pour vous qui êtes une professionnelle, vous comprenez ce que je veux dire. Et il y a les vêtements de dessous et il y a les vêtements, ce qu'on appelle le flou, toutes les chemises, les robes, les choses comme ça, etc. Et il y a les vêtements de dessus qui sont toutes les vestes et les manteaux. Donc, moi, j'achetais chez CEA tous les vêtements de dessus, y compris le cuir et la fourrure.
Ah.
Et c'est comme ça que je suis revenu dans le cuir parce que j'avais un de mes anciens fournisseurs de fourrure à l'époque et où j'étais chez CEA. On s'est retrouvé 20 ans après. Il m'a dit, Alain, je suis en train de racheter une petite boîte de fabrication de vêtements de cuir, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Est-ce que ça t'intéresse? Moi, je ne savais même pas que ça pouvait encore exister, une fabrication de vêtements de cuir à Paris à l'époque.
Oui, c'est ça.
Parce que moi, je travaillais beaucoup à l'étranger, etc. Mmh. aussi. Donc, je ne pensais même pas. Il m'a dit, viens voir. Et je suis allé voir et j'ai vu, etc. Et je me suis passionné et pour la matière et pour la fabrication française. Et voilà, depuis, je ne voyage plus ou pratiquement pas.
Pour les vacances.
Voilà, pour les vacances. Mais j'en ai de moins en moins. Et voilà, mais je suis très heureux du métier que je fais aujourd'hui. D'abord parce que je fais vivre une centaine de familles aujourd'hui.
Oui, mine de rien.
Entre les gens que j'ai en interne et les gens que j'ai chez mes façonniers, ça représente une bonne centaine de familles. Donc, je suis déjà très fier de ça. Et en plus, j'ai un métier où on doit se remettre en question tous les 2-3 mois au rythme des collections, etc.
Rien n'est acquis,
et ça reste passionnant, même si ça peut être fatigant de temps en temps.
Oui, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est quand même un métier que vous recommanderiez aussi aux jeunes aujourd'hui.
Oui, mais il faut... Voilà,
il faut avoir envie.
Voilà, j'ai 3 enfants. Aucun ne viendra dans ce métier d'abord parce que ils sont grands, mes enfants. Ils ont entre 33 et 37 ans et ils ont fait leur vie avant que je réussisse complètement dans l'entreprise que j'avais rachetée, etc.
Ouais.
Donc, ils m'ont vu galérer pendant certaines années, effectivement, parce qu'on n'a pas toujours des parcours linéaires. Donc, et quand j'ai racheté cette société de fabrication de vêtements de cuir, les premières années ont été difficiles. Mais maintenant, heureusement, tout va bien. Mais donc c'est un peu trop tard pour que mes enfants me rejoignent dans l'entreprise, mais il y a sûrement des gens que ça intéressera.
Ouais, ça c'est sûr, moi j'en suis sûre. En tout cas, nous on est là pour ça. Nous déjà, ça nous intéresse de vous rencontrer, ça nous intéresse de vous écouter, et on est là aussi pour donner envie aux jeunes qui nous écoutent, et même peut-être aux moins jeunes, à des gens qui ont envie de se former, à des gens qui ont envie d'un métier. Enfin voilà, aujourd'hui tout est possible, c'est plus comme avant. Comme vous le disiez tout à l'heure, on démarre avec une formation avec des objectifs en tête et puis la vie fait que en fait on change de parcours. Donc ça, c'est important aussi de signaler que tout est possible. Vous êtes encore un très bel exemple de ça. Rien n'est décidé, rien n'est définitif. On peut effectivement changer de parcours si on s'en donne les moyens. Et effectivement, je crois qu'il faut toujours garder en tête qu'il faut être motivé quoi qu'on fasse.
Ouais. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, je suis dans la fabrication de vêtements de cuir depuis 15 ans, mais j'ai racheté la société ici, celle où on est aujourd'hui, il y a 12 ans. Et comme j'ai 64 ans, j'avais déjà 52 ans quand j'ai racheté cette société.
Et
j'avais des copains qui commençaient à préparer leur retraite. Je me disais, mais tu es fou, tu vas acheter une société maintenant, etc. Mais tu es complètement dingue. Nous, on commence à se dire de combien d'argent on aura besoin pour vivre une retraite confortable, oui, etc. Et moi, j'ai dit, mais je n'y pense pas du tout. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir fait le choix que j'ai fait. Quoi, voilà.
Ben, nous aussi, on est contents. En tout cas, moi, je le suis. J'ai eu la chance et le bonheur de travailler avec vous. Et j'ai vu la qualité de votre travail, j'ai pu la constater. Vous l'avez vu sur les podiums, vous ne savez pas qui, mais voilà, moi je vous le dis. Et on est ravis, et je pense que les maisons sont ravies également de travailler avec vous. Sinon, elles ne vous seraient pas aussi fidèles depuis
oui,
tout ce
oui,
temps. Donc voilà, c'est ça
exactement.
Qui est important. Voilà, bon, on vous remercie beaucoup. Et moi, je vous remercie et je vous souhaite encore beaucoup d'années, de belles années de business devant vous. Merci d'exister. Merci de faire ce que vous faites parce que c'est grâce à des gens comme vous qu'on arrive encore à faire des belles choses en France. Et c'est aussi grâce à des personnes comme vous qu'on arrive à avoir de beaux vêtements aujourd'hui, parce que c'est pas la majorité les beaux vêtements, mais quand on en voit des beaux, ça fait plaisir.
En tout cas, merci d'être venu me rencontrer et merci à vous de faire une promotion de la fabrication française et de notre métier qui est toujours passionnant, c'est vrai.
C'est toujours un plaisir, merci.
Merci à vous.
Mukashimukashi.audio.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.